Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour. L'interview du jour.
Encore une facture, j'en peux plus de cette papyrasse administrative.
Otis, mon scribe. C'est lui qui scribe tout.
Immotez pas vous.
C'est une bonne situation, ça, scribe. Vous savez, moi, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Bah, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors ça n'est pas mon cas, comme je disais, puisque moi au contraire j'ai bu et je dis merci à la vie, je dis merci, je chante la distance, je ne suis qu'amour. Finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Eh bien je leur réponds très simplement, je leur dis « C'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre. » Mais demain, qui sait, peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi.
Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres. Et je crie de douleur, de fureur et de rage. Et je pleure, étreiné par la foule qui s'élance et qui danse. Une folle farandole, je suis emporté au loin. Et je crispe mes poings, maudissant la foule qui me vole. L'homme qu'elle m'avait donné, que je n'ai jamais retrouvé.
Immer wieder redest du von Liebe. Immer schwörst du ewig treu zu sein. Seh ich dich mit einer anderen Freundin? Wie lang glaubst du, sag mir, bin ich dann noch dein? Die Stiefel sind zum Wandern und wird's mir mal zu dumm. Geh ich eines Tages mit den Stiefeln auf dir rum. Ja. Wenn du nur den Mund aufmachst, dann lügst du. Immer wieder redest du dich raus. Mir erzählst du, heute musst du studieren. Und dann hör ich, du warst mit der Jenny aus.
Die Stiefel sind zum Wandern.
Je veux pas froid. Je veux pas froid. Non?
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, autour de la table, nous sommes en compagnie de Vince, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour Radio Erdiwa.
Très bien, merci. Et ensuite, Bertrand.
Bonjour.
Bonjour Bertrand. Et pour finir, Caroline, bonjour.
Bonjour Yves.
Et donc, tous trois, vous êtes ici pour présenter un peu un collectif qui s'appelle le Banban. Alors, le Banban, Caroline, ça vient d'où ?
Alors, c'est très doux, c'est très très doux. Et ça vient de. C'est un baume, en fait, hein, qui nous vient de la Lotharingie, donc, qu'on appelle maintenant la Lorraine. C'est un peu l'hiver, on habite un peu dans l'hiver, nous, là-bas. Et donc, pour se réchauffer, le cœur et l'âme, eh bien, nous avons différents soins. Et à Rosières-aux-Salines, où nous habitons, nous avons inventé donc le Baume du Banban, qui est un festival de 3 jours, qui est tout à fait excellent, 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 et qui réunit un collectif d'un peu plus de 200 artistes qui habitent autour de chez nous, qui sont nos amis, nos proches, nos tendres, et qui veulent bien mettre la main à la pâte pour qu'on puisse faire depuis 4 années bientôt ce super festival, donc qui accueille la musique, mais d'une manière beaucoup plus pointue, qui invite tous les artistes plasticiens à prendre l'espace qui leur est dû dans la ville pour exposer et mettre en avant leur travail et leur petit univers personnel.
Vous êtes basé à Nancy, je crois bien.
On est à côté de Nancy, on est à 25 km en allant vers le sud, en allant vers Strasbourg exactement.
Et la ville de Nancy, est-elle ouverte à l'artistique, à la créativité ?
Bah écoutez, je ne savais pas qu'on allait faire de politique, mais comme je suis loin de chez moi et que je suis libre, alors allons-y. Alors bon, ici dans le sud, vous avez connu Nice et donc la famille médecin, donc qui ont tenu cette ville pendant environ 40 ans. Eh ben, on peut dire qu'à Nancy, on a exactement le même genre de système qui a été mis en place, donc il y a longtemps, 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 presque 2 générations avant nous. Et par conséquent, ben nous, comme on n'est pas des familles qui sont concernées par le pouvoir, eh bien non, nous ne sommes pas dans les réseaux nancéens de la culture, de la franc-maçonnerie et des cocktails bourgeois. Non, nous n'appartenons pas à ce monde-là. Et tant mieux, je dirais.
Voilà, et on va peut-être aller plus en détail en commençant par Vince. Vince, oui. Tu es plasticien, tu te présentes comme plasticien et musicien.
Oui, non, pas du tout. Alors, comme artiste plasticien, absolument. Principalement sculpteur, dessinateur, je fais aussi un peu de peinture. Artiste plasticien, ça c'est très bien. Après, effectivement, j'ai un désalter ego qui se désaltère énormément et qui des fois passe de la musique pour amuser la galerie. Et oui, c'est vrai, je l'ai fait très mal, dans un état proche de l'Ohio, hein, pour une région qui se trouve dans la Drôme, ben, écoute, j'étais un peu loin, mais j'ai quand même réussi mon coup, ça fera parler de lui, hein, écoute, il a fait de son mieux.
Et je vous ai rencontré lors du 9e Psychobidem, hein, qui s'est déroulé ce week-end à Barnave. Comment vous vous êtes retrouvés dans cette aventure-là, week-end ?
Eh bien, écoute, c'est très simple. En fait, c'est parce qu'il y a déjà quelques années, on avait sur notre route rencontré Marine et Alex, qui sont derrière l'association Tractajoie, que vous connaissez certainement par ici, puisque c'est une petite remorque qui traîne du son et que vous avez déjà croisé, bien évidemment, par ici.
Bah, qui sont ici depuis 4 ans, voilà. Avec le Psycho By Dub.
Et la Barbe Tajoie, hein, qui finance avec ses barbes à papa le tractage de cette remorque. Et puis, en compagnie donc du coup, bah, de toute cette clique qui rassemble aussi les FLF, des DJ Lorrain qui avaient du coup pris la possession de la scène Tractajoie FLF sur laquelle nous on était invités. Et puis effectivement, voilà, c'est il y a 3-4 ans, et parce qu'on était déjà voisins en fait depuis toujours, puisque Alex habite un bled à côté de chez nous, il nous a dit ben, écoute, nous on viendra volontiers faire des barbes à papa arrosées aux artistes, puis surtout, il faudra absolument que vous veniez au Psycho By Dub, on en revient, on y va, l'année prochaine, il faut absolument que vous soyez là. Et bon, on a dit c'est combien ? C'est la 9e. Ah, bon, bah, on y va quand même. Et puis en fait, comme repérage pour venir pour la 10e, c'est impeccable. Hein, parce qu'il semblerait qu'il va y en avoir une le
Alors,
11.
Alors j'ai noté le samedi 11 août. Donc ce sera les
11 août
10
2018,
ans.
Les 10 ans du Psycho By Dub. Donc on vous invite à vous y retrouver d'or en avant.
On va réserver cette date.
Et dans l'idée, c'est de venir avec encore plus de choses à montrer et à écouter.
Alors si c'est possible, effectivement, on aimerait bien organiser un convoi d'artistes plasticiens qui serait à l'instar des free-parters et des travelers et autres nomades de notre génération à balader leurs œuvres visuelles autour d'événements sonores comme le propose par exemple un événement comme le Psycho by Dub. Absolument.
Et Vince, tes compositions musicales, enfin ce que tu as présenté, sont inspirées de reprises, hein, je crois bien.
Ouais, c'est aller chercher quelque part entre le morceau ringard et la perle de culture, qui est souvent pas la nôtre. Trouver une version en japonais de Gainsbourg, le poinçonneur des lilas, ou poupée de cire, poupée de son. C'est comme une balle dans la tête, hein, mais bon, chanter en japonais. Et effectivement, ouais, chercher la perle, chercher le ringard à la fois, tout dans le même geste, gratter encore comme le font les vieux avec leurs disques. Hein.
Et puis c'est très narratif aussi, hein, parce qu'il y a du cinéma. Moi, j'adore quand il y a les petits extraits de films qui viennent mettre dans une ambiance. Enfin, ça amène un esprit en plus que moi j'aime beaucoup. C'est de la musique presque narrative en fait.
Ouais, c'est gentil. Merci de me dire ça.
C'est vrai.
Et on se revoit après l'émission, toi. Hein. Mmh.
Je voulais savoir, ce moyen de chercher des morceaux qui sont sortis à l'étranger, est-ce que c'est pour pallier la SACEM ?
Ah non, alors, non, absolument pas, rien à voir. Non, c'est vraiment aller chercher dans les cultures, parce qu'il peut y avoir de tout corps. Hein, parce qu'il y a le hardcore, il y a le speedcore, il y a le lovecore. Et ben voilà, moi je cherche le noyau de l'amour un peu partout dans la musique.
Et l'année prochaine, tu viendras avec ton travail artistique, plastique.
Ouais, encore un peu. Là, j'avais pris une version un peu congrue parce que j'avais fait principalement des décorations sur place, à base de pochoirs et de bombes de peinture. Et effectivement, si c'est faisable l'année prochaine, arriver avec des trucs un petit peu plus monumentaux, des installations, certainement même des sculptures. Et ben, tout dépendra un petit peu du bataillon qu'on arrive à organiser pour descendre jusqu'ici.
Je me tourne vers Caroline. Caroline, je vous ai découvert ce week-end dans une petite tente rouge aux abords du festival. Et au premier regard, j'ai trouvé un lieu qui prêtait à rire, vraiment. Et je ne sais pas pourquoi, je ne m'expliquerai pas vraiment, bien qu'il y a des choses qu'on ne peut pas forcément dire. Et ce que je voulais savoir, c'est... qu'est-ce que vous êtes, plasticienne, peintre ou alors conteuse aussi ?
Je suis libre, c'est déjà la première chose importante à savoir. Et donc, par conséquent, je peux faire exactement ce que je veux. Je suis autodidacte, donc j'ai été formée en fait à l'école du cinéma. J'étais prédestinée à faire des films, de la réalisation. Et puis finalement, c'était très difficile et ça a été plutôt une expérience douloureuse pour moi. Mais grâce à laquelle j'ai pu découvrir une autre forme d'expression bien plus libre, qui est celle de la peinture et des couleurs. Donc je suis surtout une amoureuse des couleurs. J'aime les couleurs, j'aime utiliser les couleurs, je suis sensible à la couleur. Et donc j'ai une palette très riche, je m'efforce d'utiliser toutes les couleurs disponibles de ma palette, ce qui fait que j'ai un travail très coloré qui rappelle beaucoup l'Afrique, l'Amérique du Sud. Mais ma peinture est une peinture éminemment fine, cultivée, sensible, qui, donc au premier coup d'œil, séduit les gens fins, cultivés et sensibles, comme toi, Yves, ça fait plaisir. Et puis, le côté comique, oui, parce que bien sûr, l'art est très sérieux, et ça, c'est franchement une fausse vitrine vendue par l'art contemporain, mais l'art n'est pas du tout sérieux, l'art, il est juste humain, et il trimballe avec lui toutes les plaisirs et les contrariétés de notre humanité. Et donc, bien sûr, l'humour en fait partie. Et je pense qu'il faut avoir une bonne dose d'humour pour traverser la vie avec sérénité. Parce que si on n'a pas cette intelligence de ne pas se prendre au sérieux, de ne pas finalement prendre trop la vie au sérieux, on a des chances d'avoir une vie relativement heureuse. Ce qui est mon cas. Donc, au travers de ma peinture, je témoigne de cette liberté, de ce bonheur qui est accessible à tous et qui ne coûte pas grand-chose.
Est-ce que vous pensez que la peinture et la couleur permettent de vivre âgé ?
Ben j'espère, j'espère infiniment la nature.
Beaucoup de peintres sont morts très, très âgés. Hein.
Ben, on parle dans ce cas-là aussi de thérapie, de l'art-thérapie. Donc est-ce qu'effectivement la pratique d'un, d'un art, quel qu'il soit, hein, que ce soit les arts plastiques, ou, mais la musique, la danse, bon, y a moult façons de s'exprimer. Je pense que oui, effectivement, il y a des chances que ça puisse calmer l'âme, réorganiser les désordres affectifs, exprimer les émotions acides. Et que oui, ça doit faire un bien fou. Et dans ce cas-là, oui, je pense que sûrement ça soigne, sûrement ça évite de passer à côté de grosses maladies, et sûrement que j'espère bien vivre très longtemps. Oui, je. De toute façon, déjà, je mourrai pas avant la légalisation du cannabis. Ça, déjà, c'est sûr. Donc, bah, tant mieux que ça soit tardif, parce que ça me donne des jours de vie joyeuses en plus. Mais non, bien sûr que je pratique ma peinture en espérant la pratiquer la plus longtemps possible. D'autant que je pense qu'il faut quand même bien une vie de 80 ans. Vincent, qui est-ce qui disait qu'il avait commencé à faire de la bonne peinture qu'à partir de 80 ans ?
C'est Cézanne qui est voilà. Regrettait de mourir déjà parce qu'il commençait à faire des progrès.
Ben voilà, donc tout est dit. Merci Cézanne, j'ai rien à ajouter à ça.
Et bon, il faut que ça ait l'air d'un accident.
On verra ça. Bertrand, avant que Vince repasse sur un nouveau morceau, comment es-tu arrivé aussi au sein du Bamban ?
Ah ben c'est pareil, c'est par le biais d'amis communs en fait. Et la connexion s'est faite quoi tout de suite. Et ouais, qu'est-ce qu'on peut rajouter,
c'est l'amour,
quoi, c'est l'amour. C'est on s'attendait, on s'est trouvé, et voilà, maintenant on déroule notre vie ensemble, quoi. C'est bon.
Ça c'est fait.
Ouais.
Non, puis ce qui est bien aussi, c'est que justement, excusez-moi de retarder un peu, mais par ces festivals qui nous réunissent et qui nous permettent de vivre pendant une semaine ensemble dans des conditions qui sont à la fois difficiles, parce que c'est du travail, il y a de la gratuité, donc on n'est pas, c'est beaucoup de bénévolat, c'est beaucoup d'énergie gratuite qui est offerte, c'est de l'amour comme on le disait, et ça nous permet de voir au combien on est compatible, et qu'on est compatible et qu'on peut vivre ensemble heureux pendant une semaine ou 10 jours dans des conditions qui seraient carrément invivables pour certains. Et qu'on y trouve beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur à être là ensemble et à voir que notre groupe fonctionne, quoi.
Eh bien, nous allons passer peut-être un autre morceau de Vince. Tu nous proposes quoi, Vince ?
Je vous propose... Je vous propose un peu l'aile ou la cuisse, pour intromiser. Et puis après, je vous fais une petite surprise façon sushi. Sushisbourg, Serge. Yeah.
Tous les produits sont là.
Oui, monsieur le directeur.
Alors je vais commencer. Alors pour l'inspiration, musique. Mais Wagner, c'était pour le gibier, pour le gros gibier, pour le sanglier, pour le rhinocéros. Enfin, mais pour la poularde de Brest. Au homard de Rouskoff, il faut autre chose. Alors, trouvez-moi une musique légère, spirituelle, subtile, dorée. Je vous.
No.
Alors la divine affranchée, Hassan pour l'homme. Alors de l'homme, Hassan d'entrée en 10, à 17, 15 pour l'homme, 20, à 25, 30, à 35, 40 pour l'homme, à 45,
40. Allez, le moteur. Mais, t'as vu mes deux raids? Salut.
T'en viens, des Rouget? Ils sont bien, mais ils sont tenus. Moi aussi, je te retiens. Je te remercie pour la soirée d'hier.
Quelle soirée?
Bon, c'est pour celui qui comprend pas. Ton client, là, ton espagnol. 12 verres cassés, ça te dit rien?
Dis donc, toi, primo, ça fait 15 ans que je t'interdis de me parler. Dozio, si tu voulais pas qu'il boive, t'avais qu'à pas le servir.
Alors là, monsieur Quentin, je te rétorque que primo, je l'ai viré. Dozio, des ivrognes, il y en a assez dans le pays sans que tu les fasses venir de Paris.
Un ivrogne?
Oh, ben un peu, oui. Même que le père Bardas qui boit 15 pastis par jour, il n'en venait pas.
Ah, parce que tu mélanges tout ça, toi. Mon espagnol, comme tu dis, est le père Bardas. Les grands ducs et les boissons soif.
Les grands ducs?
Oui, monsieur. Les princes de la cuite, les seigneurs. Ceux avec qui tu buvais le coup dans le temps, mais qui ont toujours fait verre à part. Dis-toi bien que tes clients et toi, ils vous laissent à vos putasseries, les seigneurs. Ils sont à 100 000 verres de vous. Eux, ils tutoient les anges.
Excuse-moi, mais nous autres, on est encore capables de tenir le lit sans se prendre pour Dieu le père.
Mais c'est bien ce que je vous reproche. Vous avez le vin petit et la cuite mesquine dans le fond, vous méritez pas de boire. Tu te demandes pourquoi il picole, l'espagnol? Et pour essayer d'oublier des pignoufs comme vous. Combien qu'il fait, ton lot de Rouget, là?
300 francs le kilo.
Je te préviens que j'en ai retenu la moitié.
Eh ben moi, je prends le tout, allez, en bas de moi, je vais venir le prendre.
Et mon bon,
c'est de rien,
avec
toi. C'est trop bon.
Oui, de rien, Yves.
Oui, merci. Et pourquoi ces films français qui sont prélevés pour mettre...
C'est pour emmerder les étrangers pendant les 7 techno, ils comprennent pas ce qu'on dit, et nous, ça nous fait rigoler.
Mais mis à part ça, vous auriez pu choisir d'autres modes de...
Ouais, mais c'est discours, ce que... Hein. Oui, mais c'est ce que finalement... Les mix électroniques permettent de faire, c'est de continuer de raconter une nouvelle histoire en prenant des bouts ci et là. Et comme disait Carotte, c'est continuer d'avoir une sorte de petite narration dans cette abstraction musicale, de reprendre quelque chose qu'on connaît, dont on se souvient peut-être un petit peu, et voilà, qui a toujours un peu finalement marqué l'inconscient collectif. Et on avait oublié de s'en rappeler, comme disait un pote, c'est tout ce que tu as toujours rêvé d'entendre sans jamais oser l'écouter.
Exactement.
Gamel Dags, si tu nous entends, bisous mon petit pingouin.
Caroline, tu peins, tu comptes, je ne sais pas ce que tu fais d'autre.
Je fais la cuisine, le jardin, tout.
Est-ce que tu écris ?
Oui, aussi, un petit peu. Enfin, j'écrivais surtout par le passé, parce que j'ai même eu j'ai même bossé comme scénariste pour la télé. Donc, je vais vous dire des trucs, j'en ai écrit, puis des conneries, puis des grosses. Hein. Mais sinon, oui, ça m'arrive, oui. Et puis, je prends des notes surtout. Je prends des notes.
Des notes prélevées comme ça.
Des notes sur ma vie
qui
ou
tombent
des
sur les oreilles.
Non, oui, enfin voilà, des petites anecdotes, des actualités délirantes, insolites, voilà, des trucs qui me font marrer. Je les note et puis comme ça, je sais pas ce que j'en ferai, mais peut-être un jour ça servira pour faire des trucs, on sait pas. En tout cas, comme ça, je m'en souviens.
Est-ce que certaines paroles, par exemple, te montrent une peinture à faire ?
Certaines paroles, je sais pas, c'est un peu abstrait ce que tu me dis. Oui, je vais dire oui, oui, bien sûr, oui, oui, oui. Tout, en fait, tout est matière à la création. Si on a un peu de, enfin voilà, si on a un petit peu d'imagination, quoi, tout peut servir de support. Il y a pas de souci à ça, quoi.
Alors, tu te présentes comme peintre autodidacte et donc tu t'es formé vraiment toute seule ou alors tu as rencontré aussi des gens qui ont pu t'apprendre quelques trucs quand même.
J'ai eu la chance de rencontrer un très grand peintre de ma région qui s'appelle Pierre Kopp, qui est mort l'année dernière, qui avait le même âge que ma mère. Il était né en 31 et il était sa peinture est restée d'une fraîcheur, d'une vitalité, d'une jeunesse incomparable. Et c'est lui qui m'a surnommé la carotte. Donc en fait, il m'aimait beaucoup et j'étais vraiment un petit enfant sympa et j'étais très férue des visites qu'on allait faire chez lui et je quittais pas son atelier, il l'avait bien remarqué. Mais cela dit, je n'ai pas fait vraiment d'apprentissage, je n'ai pas eu à mes côtés un maître pour me guider la main et tout. Non, j'ai appris sur le tas toute seule, j'ai mon style.
L'académisme, donc, ne fait pas partie de ton travail ?
Non, d'autant que j'aurais pu le regretter à un moment, de ne pas avoir finalement choisi au prime abord la formation que j'ai finalement adoptée. Mais cela dit, quand je vois les gens qui ont fait les Beaux-Arts, ils m'envient. Ils m'envient mon non-académisme et ma façon de peindre hors des sentiers battus. Et du coup, à force de m'entendre dire ça, qu'ils m'enviaient ma façon de faire parce qu'ils avaient été trop formatés par l'école, j'ai fini par me dire que c'était une très bonne chose, finalement, d'être venu à la peinture par la petite porte.
Voilà, ben, moi je pourrais dire pareil. Hein, je savais peindre avant d'être aux Beaux-Arts. Ceci dit, les Beaux-Arts nous détruisent un peu quelque part. Comment ils nous appellent ça ? Déconstruire, hein, voilà. Déconstruire. Et bon, ça permet d'aborder d'autres médiums hein, que la peinture, le dessin, la sculpture, la vidéo, la photographie ou la typographie même. Enfin, il y a tout un tas de domaines pour s'exprimer. Et toi, Caroline, tu opères aussi par thématique, donc quand tu fais une suite de toiles.
Bah en fait, oui, j'essaye de faire en sorte de pouvoir avoir des expositions qui tiennent la route, donc d'avoir toujours au moins 30 tableaux de beau format sur un thème. Parce que je m'attends toujours à ce qu'on m'invite à aller faire une exposition dans un endroit super et qu'on m'offre 250 mètres carrés pour mettre mes trucs. Pour le moment, ça arrive très rarement. Mais je considère qu'un peintre doit avoir une collection. Il doit avoir des peintures d'avance. C'est pas de l'industrie. On fabrique pas ce qu'on vend le lendemain. Non, ça n'arrive pas. Et d'ailleurs, il faut pas parce qu'il faut garder des œuvres. Et je me souviens plus de ta question, mais... c'était pour dire les thèmes. Oui, les thèmes. Ben oui, les thèmes, les choses, enfin, des thèmes, pourquoi pas ? Parce qu'effectivement, partir d'un thème, c'est simple et riche, et puis ça donne du travail pour une année. Mais ça peut être aussi simplement une rencontre. Là, j'ai une copine à moi qui est morte, et ben, elle va avoir son tableau, et c'est ce tableau qui occupe en ce moment mon esprit. Et j'ai qu'une hâte, c'est d'aller m'acheter le châssis. Je suis en train de réfléchir au format, je suis en train de réfléchir à ce que je vais mettre, et ça occupe toute mon intelligence du moment.
Alors, ce sont des tableaux qui prennent tout l'espace, l'expression, les figures, tout l'espace est pris par le sujet.
J'occupe tout l'espace, toute la scène est à moi, j'occupe tout.
C'est une démarche contre certains peintres qui procèdent plutôt par une espèce de vide.
J'ai pas de culture, j'ai pas de comparaison, je m'en fous. Je vais très peu voir le travail des autres. Je suis entourée de je vous dis, donc un collectif de 100 artistes très différents qui m'enrichissent bien suffisamment pour que j'ai pas besoin d'aller voir ce que font les autres. En plus, je vais rarement maintenant à Paris. La plupart du temps, je suis assez déçue en fait, de ce que je vois. Et puis je préfère rester instinctif, fraîche, naturelle, pure, m'inspirer des guêpes et des colibris et des macarons et des limaces de mon jardin.
Alors la thématique que j'ai découvert ce week-end était le medicine show, c'est ça ?
Yes, la pharmacie.
La pharmacie ?
La pharmacie ancienne.
Quelque chose qui te tient à cœur, je crois, puisque tu es issu, je ne sais pas si je peux me permettre, d'une famille de pharmaciens.
Oui, absolument.
Voilà, donc tu as eu quand même pas mal d'objets qui t'ont servi pour...
C'est pas difficile, hein. Depuis la mort de mon grand-père en 1981, j'ai déménagé tous les 5 ans et j'ai transbahuté avec moi tout le reste de sa cave et du laboratoire de sa pharmacie. Donc c'est des pots, j'ai des codex, c'est-à-dire que j'ai les livres de préparation pharmaceutique de mon grand-père et avec les, enfin qui, il a fait les annotations sur celui de son père, qui avait fait les annotations sur celui de son grand-père. Donc c'est vraiment des ouvrages fabuleux que je garde comme la prunelle de mes yeux, parce que je me dis qu'en cas de on est déjà dedans, c'est-à-dire quand le grand mensonge de la médecine sera bien apparu aux yeux de tous et que les gens iront dans leur jardin pour chercher dans les plantes qui poussent chez eux les produits pour se soigner, à ce moment-là ils pourront venir me chercher, parce que moi je sais tout sur l'usage des simples. Donc les simples, en fait, c'est les fleurs, ce qu'on appelle les mauvaises herbes parfois, qui poussent à l'orée de votre porte et qui sont capables de pratiquement soigner tous vos petits maux quotidiens.
Et alors ces petits maux, quand c'est pas par la peinture, c'est par la peinture aussi que tu les soignes ?
Oui, c'est par la peinture. Parce que je pense qu'avoir une œuvre d'art chez soi est déjà une façon de se soigner. C'est une façon de déjà se faire un plaisir qui est rare. Parce que si les gens sont des grands consommateurs de produits inutiles, ils sont très peu férus d'œuvres uniques. Comme si finalement les gens n'avaient plus conscience de leur unicité identitaire. Et qu'en fait, ils ne se comportent plus que comme une seule grosse masse décérébrée. Donc par exemple, quand on va chez les gens, on s'aperçoit qu'ils sont tous dans l'univers Ikea. Donc ils changent tous les ans ou peut-être deux fois par an de mode en fonction de la mode Le Roi Merlin ou Ikea. Ils achètent les œuvres toutes faites qui sont déjà imprimées sur des trucs. Et des fois c'est New York et des fois c'est un caillou zen et voilà. Et des fois c'est un peu ethnique. Enfin voilà, ça change sur 3 thématiques. Et c'est très triste, franchement, c'est vraiment très triste. Ça me déprime horriblement. Et on essaye donc de faire en sorte que les gens qui flashent sur nos tableaux, qui en tombent amoureux, comme ça, ils puissent repartir avec. On ne se préoccupe pas trop d'argent. D'ailleurs, comme tu l'as vu, parce que des gens me disent « Ouais, mais il n'y a pas d'étiquette, on ne sait pas les prix, alors on n'ose pas demander et tout. » Ben voilà, vous êtes un peu bête. Moi, je ne mets pas de prix parce que je trouve que le prix enlève la poésie. C'est très difficile de donner un prix à une œuvre d'art. Et du moment où il y a un chiffre avec des zéros et une devise derrière, ça y est, c'est foutu. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus qu'un produit consommable. Et moi, ça je ne veux pas rentrer là-dedans. Donc, il n'y a pas de prix. Donc, ça veut dire que la personne qui est intéressée, hop, tu vois, tu arrives, tu vois un tableau, un petit objet qui te plaît. Il faut que tu fasses la démarche de venir me voir, me rencontrer et de discuter avec moi pour qu'on parle justement de ce fameux tarif et comment on va s'arranger et tout ça. Mais il y a toujours possibilité de s'arranger avec des artistes qui souvent ont faim, doivent mettre aussi de l'essence dans leur véhicule et payer leurs charges et leurs impôts, bien sûr, quand ils ont des impôts à payer.
Oui, le prix d'ailleurs est vraiment sur le bas terme, puisque je suis allé sur un des sites où toutes les toiles, quelle que soit la taille, étaient toutes à 941 $, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. Des fois c'est prix libre, des fois c'est 100 millions de dollars, on s'en fout. Enfin, je veux dire, c'est pas le prix qui fait l'œuvre, malgré ce qu'on essaye de vous faire croire.
Vince, si tu veux renouer quelque chose de nouveau.
J'ai des conneries pour vous, hein, absolument. Allez.
Allez, on repart. Hein.
Je vais vous faire un petit peu mal et en même temps je vais vous faire plaisir.
C'est ce que je préfère.
mal à la tête. Une migraine insupportable. Ça frappe toujours du même côté. Le côté gauche. C'est une pulsation stable battant son rythme constant, mais indépendant du rythme cardiaque. Ça revient fréquemment et de plus en plus violent. À certains moments, ça se généralise derrière la tête, incluant la nuque et la colonne vertébrale jusqu'au milieu du dos. J'essaie d'être immobile et de ne penser à rien. C'est très difficile. Il n'y a que dans l'obscurité que j'arrive à me détendre. Car la lumière, si petite soit-elle, m'affecte au niveau visuel. Et le seul fait d'écrire ces quelques notes demande un effort considérable. Cette situation m'inquiète et me décourage. Je ne sais pas pourquoi j'écris tout ceci, mais je l'écris tout de même, machinalement, par habitude. La pulsation dans ma tête s'intensifie, prend de l'ampleur, augmente, se superpose sur mon pouls et prend le dessus sur celui-ci. Le rephase. Mon cœur est maintenant synchrone avec cette pulsation. Mon corps en entier est gagné par cette convulsion métronomique. J'ai l'impression d'avoir un corps étranger dans ma tête, un objet dans mon crâne.
Qu'il a dit. Démodé, je vais vous dire pourquoi. Parce que vous vous acharnez à chercher le fric dans les banques, mais c'est plus là qu'il est fric. Et vos péripéticiennes, elles se barrent, hein? Et ben c'est normal, parce que toutes les femmes se politisent, hein? Et les putes aussi. Quoi? Elles votent, elles font des congrès, des mouvements de libération, et pourquoi pas? C'est normal. Si tu veux du fric, Lino, aujourd'hui, il faut que tu deviennes trésorier des états généraux de la femme. Voilà. Bah, c'est pourtant, ça me semble clair, non? Al Capone, Spirito et compagnie, ça c'est terminé. Et 20 ans de retard. Je croyais que les spaghettis. Les spaghettis, ça peut être très fort. Et encore, attention, c'est Aldo qui les fait.
Bon, Rita.
Dis-moi, baguette.
Mais qu'est-ce que tu veux, moi, en ce moment, pour pouvoir parler comme ça?
Moi? Ouais. En ce moment, je vais vous donner la tête. Je fais du tir au pigeon sur les PDG. C'est d'ailleurs assez marrant. Parce que je tire sur des types de droite. Je suis payé par l'extrême droite. Et c'est pour mouiller l'extrême gauche.
J'aurais fait des âges sur le sourd là.
Je dis que je tire sur des types de droite. Je suis payé par l'extrême droite. Et ça mouille l'extrême gauche.
C'est bon? Hein?
Oui. La politique. La politique. Ça y est, c'est vrai aujourd'hui. Y'a que ça qui marche. Qu'est-ce que c'est la CGT? Bon, maintenant il va falloir commencer depuis le début. Bon, bien sûr, tu peux pas savoir ce que c'est que la CGT. Mais Aldo, la politique, ça s'improvise pas. Il faut prendre des cours. D'ailleurs, il faudra prendre des cours.
Caroline, je reviens vers toi par rapport à cette pharmacie que tu as présentée à Barnave ce week-end. Pour chaque chose qui était exposée, que ce soit toile ou objet, ou comment on pourrait dire, des objets fétiches ou des trousses de secours aussi. Pour chaque objet, donc, tu as une histoire à raconter. C'est à partir de cette thématique, tu as trouvé des histoires ou des choses vécues ou...
Ben, je mélange un petit peu tout, en fait. Je mélange les petits objets que j'ai à ma disposition, qui sont vieux, anciens, et qui ont des fois, même la plupart, des fois 100 ans d'âge. Donc, c'est pas rien, quand même. Et à ces petits flacons qui soignent, je tâche de trouver une petite histoire moderne qui puisse faire le lien historique entre hier et aujourd'hui pour préparer un demain meilleur.
Et moi, par exemple, sur un de tes objets, la poudre de momie, je voudrais que tu puisses partager un petit peu l'histoire de cette poudre de momie.
Mais
aux auditeurs.
Joie, avec joie, même si c'est une histoire un petit peu épouvantable, n'est-ce pas? Mais alors, oui, donc momie, ça vient du terme mumia, qui signifie résine. Et depuis la nuit des temps, les Égyptiens se faisaient momifier. Donc, c'est pas seulement les pharaons et les grandes reines qui avaient droit à ce traitement de faveur. Tout le monde pouvait avoir sa petite momie. Et quand l'Égypte moderne a commencé à se faire et qu'ils ont commencé à creuser un petit peu partout, ils ont bien évidemment découvert des momies. Donc, ils savaient pas trop quoi en faire. Et puis, il s'est avéré que finalement, c'est comme le cochon un peu, hein, tout est bon dans la momie. Donc, les phases de pré-industrialisation ont été servies par ces momies qui ont pu être brûlées pour faire du pétrole lampant. Enfin, se sont transformées en pétrole lampant, se sont transformées en combustible pour les machines à vapeur. Et puis, déjà au Moyen-Âge, on se servait de poudre de momie, où on avait un petit morceau de momie avec soi. Donc, par exemple, François Ier, notre grand roi, ne partait jamais guerroyer sans un petit morceau de momie dans sa poche, qui lui servait à la fois de talisman protecteur et de symbole d'éternité, de longue vie. Et puis, en cas de blessure grave, son médecin urgentiste lui mettait un peu de poudre dans sa blessure en espérant que ça guérisse. Et puis finalement, heureusement, Ambroise Paré est venu sortir un peu ces pratiques de l'obscurantisme en disant « mais non, c'est dégoûtant et tout ça, arrêtez de faire ça ». La poudre de momie, comme d'ailleurs la poudre de crâne humain, ne sont pas du tout bons et propres à la consommation. C'est en fait plein de miasmes et de résidus. Donc, pour plus particulièrement parler de la poudre de momie, puisque c'est ça qui t'intéresse, Yves. Donc en fait, évidemment, il y a tout ce qui a servi à faire la momie. Donc les restes du corps, sans les organes, bien sûr, tous les encens, les poudres, Et puis ce qu'on appelle le résime, le bitume. Donc la momie, elle est entièrement résinée. Et puis ensuite, elle est emballée dans des bandelettes. Et quiconque lui fait voir la lumière du jour doit être puni de mort atroce et très rapide, parce que c'est la pire profanation qui puisse être faite à un être. Et quand on parle... Alors c'est marrant, parce qu'il y a eu Dieu sait combien de profanations, justement ici dans le sud, de cimetières juifs et autres. Et bien figurez-vous que quand vous allez au Louvre et que vous payez pour contempler une momie qui est enlevée de ses bandelettes, vous participez à un acte totalement abominable. C'est vraiment très affreux de faire ça. Alors bon, on va continuer l'histoire de la poudre de momie. Donc on arrive vers les années entre 1850 et 1930, on va dire à peu près, quand il y a eu vraiment tout cet amour pour l'égyptologie, enfin la découverte de l'Égypte, la magie qui allait avec l'école de la Grande Pyramide et l'alchimie, et enfin bon, voilà, toute cette magie qui nous échappe un petit peu de l'orientalisme égyptien. Tout le monde a voulu sa momie. Donc, chez les nobles, chez les bourgeois, que ce soit au Japon, bizarrement, ou en Angleterre, ou à Paris, les riches se faisaient acheter à grands frais et transporter à grands frais des momies jusque dans leur salon. Et ils organisaient des soirées privées où les copains avaient le droit de entièrement débandeler, enfin enlever les bandelettes de la momie. Et à l'intérieur, comme quand c'était une personnalité un peu riche, elle avait des petites amulettes, des petits scarabées, des petits objets d'or, des petits fétiches qui étaient cachés comme ça un peu partout dans la momie. Et alors celui qui trouvait un petit objet, alors lui, bon, bah, il repartait avec le paquet cadeau, c'était génial et tout, super soirée d'enfer. Donc, et puis parallèlement à ça, la poudre a été donc, et là où on s'intéresse vraiment donc à l'art, à la peinture, et c'est là où c'est rigolo quoi. Et cette poudre s'est retrouvée dans des tubes de peinture. Ça a servi de base pour faire un pigment ocre brun, qui s'appelait d'abord le brun momie, qui a été très utilisé en Angleterre pendant cette période. Donc les peintres de cette période, on les appelle les peintres raphaélites ou pré-raphaélites. Ils font des tableaux qui sont très bruns, ocre brun, et ils utilisaient donc la poudre de momie. Alors à propos, j'ai une petite anecdote, si je peux la raconter, si on a le temps. Donc il y avait eu un vernissage comme ça vers les années 1880 dans un salon d'artistes londonien connu, et un type en se baladant dans l'atelier repère ces tubes de pigments brun momie, et il va voir le peintre et lui dit: mais enfin, est-ce que tu te rends bien compte, est-ce que tu sais ce qu'il y a là-dedans? Donc comme il s'agissait d'ocre brun, donc franchement ça pouvait être n'importe quel pigment d'origine végétale ou minérale, ça posait pas vraiment de problème. Donc le type dit: ben non, c'est un pigment, je ne sais pas. Et il dit: mais là en fait tu peins avec des vrais résidus humains, il y a de la chair, des os, du sang, enfin je sais pas si tu te rends bien compte de ce que tu es en train de faire, mais c'est absolument épouvantable. Et comme le peintre était, comme tous les peintres d'ailleurs, sensible, il a été frappé d'horreur et il a pris tous ses tubes qui lui restaient, il est descendu dans son jardin et pour chacun des tubes, il a fait une petite tombe et il leur a fait à chacune un petit enterrement. Voilà.
Et puis, je rappelle les 40 millions de momies qui ont été exploitées.
Ouais, donc... 40 millions environ. Et en fait, c'est un chiffre complètement aléatoire. Hein, on ne sait pas trop exactement, mais c'est un vrai trafic de momies.
Un des premiers bienfaits de l'Occident au Moyen-Orient,
si on peut dire, enfin oui.
On dépollue le sous-sol.
Ouais, c'est une façon de, effectivement, dépolluer le sous-sol, je ne sais pas. Enfin, elles étaient très bien à leur place et voilà, il y a des petits... Quand on creuse un petit peu comme ça les histoires, on finit toujours par trouver des liens très insolites et très originaux d'une époque à l'autre. Et puis, voilà, c'est aussi... Enfin, moi, ma petite pharmacie, elle est surtout là pour... maintenir les gens en bonne santé, c'est-à-dire je suis là pour apprendre aux gens, puisque j'ai été vraiment élevée dans un hôpital, j'ai été gardée au service pédiatrique des sœurs, donc j'ai vu tout un tas de petits enfants malades pendant toute ma jeunesse, et j'ai fait une demi-vie avec de l'allopathie qui n'a jamais rien soigné, et puis j'ai fait le reste de ma vie avec les médecines douces et l'homéopathie qui m'ont tout soigné. Alors j'ai pris vraiment plaisir à m'intéresser aux plantes. Et j'invite les gens à parfois se désintéresser un peu des avis médicaux pour déjà bien écouter leur corps et se connaître mieux, parce que finalement je pense qu'on n'ignore pas les maux dont on souffre, puisqu'on est, on se les génère par notre alimentation ou notre façon de vivre. Et je pense que maintenant il faut arriver à un moment où il va falloir se séparer de la médecine. Parce que la médecine devient dangereuse, elle devient morbide en fait, et je pense qu'elle n'est plus du tout capable de nous soigner correctement. Je pense que maintenant le travail que nous avons, c'est de nous soigner quand on est malade, mais surtout d'éviter de tomber malade, donc de faire le mieux qu'on peut pour rester en bonne santé le plus longtemps possible.
On arrive à la fin de l'émission. Caroline, est-ce qu'il y a moyen de voir ton travail sur Internet ?
Alors, ben, sur Internet, oui, bien sûr, un peu comme tout le monde, mais ce n'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est de venir me voir chez moi. Non seulement parce qu'il y a mon travail, mais il y a aussi celui de mon mari, Vince, qui est aussi, même parfois, bien plus riche que le mien. Et puis, ben, de nous suivre quand on fait nos... Quand on fait nos déplacements dans les festivals, parce qu'on se déplace toujours dans des endroits vraiment super, avec des ambiances musicales, des amis, enfin, en général, on est dans des bons endroits. Et je suis heureuse, je remercie Mère Nature de m'avoir donné cette chance d'avoir une vie où je fais le travail que j'aime, avec des gens que j'aime, où le partage, la mutualisation, la gratuité... Sont là et sont présents. Alors puisque c'est bientôt la fin là, donc j'ai quand même pris des petites notes. Donc quand même je voulais vous dire à propos de ce fameux Psycho Bide Up que vous avez la chance d'avoir dans votre région. Donc l'année prochaine, je redis la date, donc le samedi 11 août 2018, il y aura donc les 10 ans de ce festival qui va être énorme. Enfin je pense que chacun va mettre toute son énergie pour en faire vraiment un grand truc dont tout le monde se souviendra. Donc je voulais remercier donc l'équipe du Psycho. Donc il y a Mathias, Brachou, Maggie, Saoman, Nico, et bon c'est qu'un petit peu. Ensuite nous on a été invités par Tractajoie, donc c'est surtout Alex et Marine. Et Marine, merci, excusez-moi.
J'aime bien Rosa, quoi.
Et puis ensuite, je voulais aussi donc vous dire que il y avait quand même eu environ 2500 personnes qui étaient venues. Que l'énergie quand même repose toujours sur les épaules des mêmes, donc il va quand même y avoir besoin de bénévoles sérieux, solides et sur lesquels on pourra compter toute l'année. Je voulais remercier les enfants qui nous aident aussi, qui nous servent de mascotte, qui amènent beaucoup de bonne humeur et qui sont les premiers à vouloir ramasser les poubelles. Donc je dis un grand merci à Mathis, à Loane, à Maya et puis à la toute petite mascotte bébé Mia Rosa que tout le monde adore. Et je voulais vous dire qu'ici, dans la Drôme, bon, y a quand même des petits problèmes. Hein. Donc, vous voulez une région où il y a beaucoup d'écologie, tout le monde est éco-responsable, bio, blablabla, blablabla, c'est super. Moi, franchement, j'adore votre région, le miel, tout ça, c'est très bien. Mais alors, par contre, vous êtes quand même très crado, hein, parce que donc il y avait beaucoup de camions, beaucoup de gens d'ici. Et alors, même s'ils ont mis des petits papiers, par exemple, pour faire les poubelles, par exemple, de leur cabinet. Donc, les gens ont retrouvé moult sacs dans les arbres bien accrochés, donc des sacs en plastique qui servaient à mettre leur papier toilette de caca. Mais ces gens-là n'ont pas ramassé les sacs en plastique de leur séjour. Donc ils ont, je veux dire, bien fait caca, ils n'ont pas laissé leur papier, ils ont mis ça dans un petit sac en plastique qui attendra, donc je pense, l'année prochaine qu'ils veulent bien venir le récupérer. Alors du coup, les gens qui, comme nous, ont passé la matinée avec des gants à ramasser toutes les choses sur le terrain, eh ben, on peut vous dire que les gens du Hellfest, par exemple, ont un terrain derrière eux qui est beaucoup plus propre que celui de la Drôme, et pourtant c'est pas la même culture, c'est pas la même mise en avant de l'écologie et de l'éco-responsabilité. Donc messieurs, mesdames, quand vous reviendrez l'année prochaine au Psycho Bide Up, pensez à repartir avec vos poubelles, de même que les chiens très nombreux sur le site font des crottes un peu partout et que leurs propriétaires continuent à ne pas les ramasser. Donc ça, je considère que vraiment c'est des choses qui sont intolérables. En 2017 et en 2018, il faudra arrêter ça. Et si vous êtes vraiment responsable, ouais, enfin soyez-le intégralement et allez au bout du process. Et on n'y est pas encore au bout, mais voilà, le chemin est long, mais je vous en prie, faisons-le ensemble. Voilà, et sur ce, je vous aime, j'ai passé un excellent moment, j'ai dansé pendant 20 heures, ce qui franchement à mon âge est une performance, hein. Je ne vous dirai pas quel âge j'ai, mais je peux vous dire que c'est une performance. Et donc je reviendrai l'année prochaine avec une pharmacie plus belle, plus grosse, et puis je vous apprendrai à vous maintenir en bonne santé, à danser 20 heures et à essayer de ne pas abuser ni d'alcool ni de produits, parce que des fois ça finit mal. Voilà, merci, bonne journée, à l'année prochaine, salut le Diwa.
Merci Caroline, et merci aussi pour ta peinture et la joyeuseté, je ne sais pas si on peut dire le bonheur qu'on peut
l'amour,
y trouver.
L'amour, Yves, c'est l'amour.
L'amour, allez. Et Bertrand, toi aussi, tu seras là l'année prochaine ?
Oui, bien sûr. Oui.
Tu fais quoi, toi, Bertrand ?
On peut dire que je suis branleur professionnel, en fait.
C'est un métier rare.
Ah, c'est, il faut passer le temps. C'est
mais tu es en freelance depuis quelques années, il me semble.
Complètement. C'est pour ça que je suis content de vous avoir rencontré.
Et puis, nous allons terminer l'émission avec un dernier morceau de Vince.
Ouais.
Vince, y a possibilité aussi de découvrir ta musique ?
Ouais, bon, faut gratter, faut chercher, faut essayer de retrouver un gars qui s'appelle Alain Lemenu, en dédicace à un DJ de techno très très réputé,
commence par Manu en vrai.
Eh bien, nous allons terminer donc avec quoi ?
Avec un petit clin d'œil pour revenir sur ce que vient de dire Carotte à travers un extrait de Bernard Blier et puis un morceau de 96 qui est une vieille balle techno.
Eh bien, je vous souhaite tous une bonne fin de journée.
Merci Yves.
Et puis à l'année prochaine.
Oh oui, merci.
À l'année prochaine. Merci,
l'année prochaine.
La Drôme. Merci le Diwa. Merci Barnav et le Psycho by Dub 9.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Simple fait de se poser une question. C'est déjà un commencement de réponse.
Exact.
Simple fait de se demander est-ce que par hasard je ne serais pas un gros enculé ? Eh bien, ça signifie que peut-être vous en êtes un.
Exact. Bonne question. Bonne réaction de l'intelligence, qui n'est donc pas complètement morte.
Est-ce que vous savez à quoi on reconnaît un gros con de droite d'un gros con de gauche ?
Non.
Quand vous chiez, vous avez beau chier proprement, tirer la chasse et tout. Très souvent, dans la cuvette, il y a de la merde qui reste. Collée.
Ah, oui.
Bon. Cette merde qui reste, collée, qu'est-ce qu'il en fait, le mec de gauche ? Il la nettoie. Il prend le balai à chiottes, il la fait disparaître. Alors que le gros con de droite, qu'est-ce qu'il fait ? Le gros con de droite, il laisse sa merde et il se débile. Il s'en occupe même pas. Il y a des gens payés pour ça, des gens qui passent derrière.
Des temps nouveaux. Ceux qui te mettent dans la merde ne le font pas toujours pour ton malheur, et ceux qui t'en sortent ne le font pas toujours pour ton bonheur.